Nous allons donc maintenant passer à l'élément de fond de notre ordre du jour. Je vais vous présenter Madame Laure Bécquiot. Vous avez entendu, il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Bladier, procureur de la République, à Meaux. Il a traité des multiples facettes du métier de procureur dans un tribunal important, mais dont la taille demeure encore assez limitée. Avec Laure Bécquiot, procureur de la République de Paris, il en va différemment. Tant la taille du parquet de Paris, la variété des contentieux qu'il est conduit à traiter et dont il a, pour certains, le monopole, je pense notamment au terrorisme, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre, le nombre de magistrats affectés à ce parquet, près de 120, peut-être même 130, si tous les postes budgétaires sont pourvus, le rendent singulier et même exceptionnel. À Paris, tout est à part sur le plan judiciaire. Tout prend souvent des proportions inattendues. Les priorités se cumulent. Il faut savoir opérer des choix et, selon les contentieux, définir, dans le cadre de celle que trace le garde des Sceaux, une politique pénale adaptée aux spécificités de la ville capitale, avec ses excès, sa démesure et la rapidité avec laquelle peuvent parfois prendre naissance, à côté de compétences traditionnelles, certains contentieux nouveaux ou jusqu'ici considérés comme non prioritaires. C'est le cas dans le domaine des infractions sexuelles et intrafamiliales. À côté des infractions malheureusement classiques, telles que le viol et les agressions sexuelles, on a vu avec le phénomène MeToo la dénonciation des crimes d'inceste, la révélation de comportements prédateurs et en nombre adoptés dans certains milieux artistiques, ecclésiastiques, militaires, la dénonciation de faits de harcèlement moral et ou sexuel, comportements devenus à présent insupportables, on a vu se développer une prise en compte de plus en plus grande de certains types d'infractions, l'action des parquets et des juges étant largement relayée par les médias. C'est précisément de cela et de la manière dont agit son parquet que va, de façon très concrète, nous parler Madame Laure Bécquiot. Avec le dramatique problème des violences intrafamiliales et conjugales, c'est donc d'un pan limité, mais essentiel, et en constante progression de son activité qu'elle va nous entretenir. Vous n'aurez pas à cet instant un panorama de tout ce que fait le parquet de Paris. Non, c'est vraiment la politique pénale du parquet de Paris dans ce secteur bien ciblé. Je rappellerai que Laure Bécquiot est la première femme à diriger le parquet de Paris. Après avoir exercé successivement les fonctions de substitut du procureur à Rouen, de premier substitut à Chalon-sur-Saône, de procureure adjointe à Lille, puis à Versailles, puis à Bobigny, de procureur de la République à Nîmes, procureur de la République à Créteil et enfin Paris. Voilà un parfait et brillant parcours de procureur qui vous montre en outre ce qu'est la mobilité et donc la disponibilité des magistrats. On va de Lille à Nîmes, en passant par Rouen, Chalon-sur-Saône, comme si tout cela se faisait naturellement et facilement. C'est un parcours exceptionnel. Je tiens à souligner que Madame Bécquiot, quand on connaît la charge de ce poste, a accepté de nous donner de son temps, qui est un temps précieux. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. Vous avez la parole, Madame. Installez-vous. Et nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les membres de l'Académie. Avant de débuter ma communication, permettez-moi d'adresser un remerciement tout particulier à monsieur Bruno Cotte, car c'est grâce à lui que j'ai à cet instant l'opportunité de partager avec vous le regard qui est le mien sur le traitement judiciaire des violences sexuelles et des violences intrafamiliales, notamment conjugales. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Le traitement judiciaire des violences sexuelles et des violences intrafamiliales, c'est un immense défi. C'est aussi une vraie gageure que de le décrire dans les 50 minutes d'usage. Sans doute le temps d'échange ultérieur sera-t-il l'occasion de compléter mes propos. Du fait des responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes, je traiterai principalement le sujet sous l'angle pénal. Ce prisme pénal n'est toutefois pas le seul à considérer. Le champ civil importe également. Le magistrat du parquet intervient d'ailleurs en ce champ lorsque, par exemple, il lui revient de saisir le juge des enfants aux fins de placement d'un mineur en danger. Mais surtout, il est désormais acquis que, dans le traitement des violences intrafamiliales, une transversalité s'impose. Il faut décloisonner, car dans bien des cas, procédure de séparation civile et procédure pénale s'entremêlent. Cela conduit un auteur à affirmer que, je le cite, « pour protéger plus efficacement les victimes, le législateur permet aujourd'hui au juge civil de recourir à des mesures de plus en plus contraignantes dès le soupçon de violence intrafamiliale et, inversement, invite le juge pénal à s'immiscer dans la vie familiale des auteurs condamnés. » La première partie de mon propos sera donc consacrée au temps de l'enquête et de l'orientation des procédures. Dans un second temps, j'évoquerai les mesures d'accompagnement de la victime et de suivi du mise en cause, souvent confrontées au temps long de la procédure. Au préalable, il m'apparaît nécessaire de justifier en quoi l'intervention judiciaire sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui constitue un défi tout particulier. Véritable défi que cette intervention qui s'inscrit dans une complexité infinie, une sensibilité extrême et enfin dans un contexte sociologique et juridique constamment évolutif. Sujet complexe, car dans son traitement semble se percuter, plus que dans tout autre domaine d'investigation judiciaire, le principe cardinal de la présomption d'innocence d'une part. Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison, selon la formule bien connue de Voltaire. Mais aux côtés de ce principe, d'autre part, le nécessaire devoir de recueil de la parole des victimes par une écoute attentive et bienveillante. Sous-tendu par une conviction préalable qu'une formule de la Civise résume parfaitement, « Je te crois et je te protège ». Sujet d'une extrême sensibilité aussi car il confine à l'intime et constitue la source de préjudices considérables et durables sur la santé physique et mentale des victimes, sur leur parcours scolaire ou professionnel, sur leur vie familiale. Sujet d'une extrême sensibilité aussi, car si l'on en croit les données statistiques, nos institutions, et en ce compris l'institution judiciaire, sont loin d'être dotées, encore, des moyens nécessaires pour assurer le traitement réactif des dossiers. Ce alors même que des renforts sont annoncés, vous le savez. L'énumération de certaines données statistiques donne un sentiment de vertige. En 2023, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit un féminicide, pour prendre désormais l'acronyme adopté, tous les 4 jours. Les chiffres étaient de 146 en 2019, 102 en 2020, 122 en 2021 et 118 en 2022. Les chiffres des violences conjugales sont tout aussi vertigineux et je n'évoquerai ici que la plaque parisienne. 7535 plaintes ont été reçues en 2023 dans les commissariats contre 6811 en 2022, soit une augmentation de plus de 10%, soit plus d'une vingtaine de plaintes par jour. Alors même que l'on sait la difficulté de cette démarche, cette augmentation est constante. En 2019, le nombre de ces procédures se chiffrait à 4684. Ainsi, en 4 ans, l'augmentation s'établit à près de 2800 plaintes. Au tribunal judiciaire de Paris, 1217 mises en cause ont été déférées en 2023, c'est-à-dire entre 3 et 4 personnes par jour uniquement sur le sujet des violences conjugales. 274 d'entre elles ont été jugées selon la procédure de comparution immédiate, c'est-à-dire à minima, un prévenu par jour d'audience à Paris, puisque les audiences de comparution immédiate se déroulent 6 jours sur 7. Enfin, 2 derniers chiffres pour ne pas vous lasser, ils concernent les mineurs. Selon la CIVISE, 160 000 enfants sont chaque année victimes de violences sexuelles. Comprenons-nous bien, si ces données sont exactes, cela signifie qu'un enfant est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Selon la Voix de l'enfant, plus de 60 enfants ont été tués par leurs parents en 2023. Il nous faut évidemment être au rendez-vous. Sujet complexe, sujet d'une extrême sensibilité et enfin sujet constamment évolutif, tant sociologiquement que juridiquement. La presse a amplement relayé en 2019 ce que l'on a appelé le Grenelle des violences conjugales. De façon presque concomitante est alors installée la CIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. 2 ans plus tard, le président de la République annonce la création d'une autre commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE. Sociologiquement, les notions d'emprise, de contrôle coercitif, de vulnérabilité chimique, de soumission chimique, d'amnésie traumatique ont incité à l'emploi de nouvelles grilles de lecture pour appréhender la réalité des faits. Pour mémoire, quelques définitions. L'emprise psychologique est une effraction psychique, un rapport asymétrique, toxique, de type dominant-dominé. Masqué par différentes sortes de manipulations, des plus douces, entre guillemets, aux plus violentes, de stratégies perverses plus ou moins subtiles, explique la psychothérapeute Sylvie Tenenbaum. Elle suscite la peur, puis la terreur, et constitue une tentative, parfois réussie, de meurtre psychique. Pour la victime, l'emprise psychologique peut avoir des conséquences plus ou moins importantes selon le degré et la durée de la manipulation. Faible estime de soi, repli sur soi, anxiété, crise d'angoisse ou de panique, dépression, dépersonnalisation, idées suicidaires. Le contrôle coercitif. Le sociologue Evan Stark le définit comme se concrétisant par diverses tactiques, physiques ou non, utilisées par le conjoint violent pour isoler, dégrader, exploiter et dominer sa partenaire en la privant de liberté. Ces 2 notions sont les 2 faces d'une même monnaie. La première porte le regard vers la victime, la seconde vers l'auteur. Soumission chimique et vulnérabilité chimique. La première correspond au fait de droguer une personne pour annihiler sa volonté et commettre un crime ou un délit. La seconde, au fait de profiter d'une vulnérabilité chimique de la victime, absorption d'alcool ou de drogue, par exemple, pour commettre un crime ou un délit. Sidération et dissociation psychique. La dissociation est la conséquence de la sidération. Le cerveau disjoncte pour éviter la mort ou une atteinte neurologique extrême à la victime. Une alarme va hurler de plus en plus fort en soi et c'est cela qui provoque la dissociation traumatique. Cette impression pour la victime d'être spectatrice de l'événement, comme déconnectée de son corps ou déjà morte, pour reprendre les mots souvent utilisés par ces personnes. Muriel Salmona, que je viens de citer ici, médecin psychiatre spécialiste de la question, insiste sur le fait que la sidération profite à l'agresseur. Amnésie traumatique, c'est la période pendant laquelle une personne n'a pas conscience des violences qu'elle a subies. Le souvenir est enfoui dans son cerveau, inaccessible. À ce moment-là, pour se protéger de la terreur et du stress extrême généré par les violences, le cerveau disjoncte et déconnecte avec les circuits émotionnels et ceux de la mémoire, explique encore Muriel Salmona. Le mouvement MeToo, émergent dès 2017, mouvement qui ne cesse de s'amplifier, récemment, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le monde médical et celui des armées ont été également concernés, a mis en lumière, une lumière brute, la réalité des faits. Les plaintes ne cessent depuis d'augmenter. Pourtant, particulièrement dans le domaine des violences sexuelles, les classements sans suite restent importants. La réponse pénale demeure faible. C'est une véritable difficulté car cela dégrade nécessairement la confiance dans l'institution judiciaire et provoque parfois la recherche d'une justice médiatique sans contrôle. Je reviendrai sur les causes de ce hiatus. Parallèlement, les évolutions législatives se sont multipliées. Même si le mouvement MeToo a été un déclencheur évident de cette accélération, cette évolution est ancienne. Quelques exemples. Loi du 23 décembre 1980, nouvelle définition du viol. Loi du 4 avril 2006, reconnaissance de la circonstance aggravante de conjoint, uni ou non par le mariage, associé au viol ou aux agressions sexuelles. En 1989, 1998, 2004, 2017, succession de lois au sein desquelles les règles de la prescription ne cessent d'être réécrites. Dernière évolution en date, 2021, la prescription du viol d'un mineur est fixée à 30 ans après la majorité. Et la notion de la prescription glissante est adoptée. Nous y reviendrons plus loin. Depuis le Grenelle dit des violences conjugales, les lois les concernant se succèdent. Loi du 28 décembre 2019, loi du 30 juillet 2020, loi du 21 avril 2021, et j'en oublie sans doute, avec pour conséquence l'intégration dans la loi du dispositif empirique du téléphone grave danger, la création de l'ordonnance de protection notamment. En dépit de cette accélération normative, ces évolutions semblent encore inachevées. La réécriture de la définition du viol s'annonce pour qu'apparaisse explicitement dans le texte d'incrimination la notion du consentement. Dernière évolution en date, encore, la loi du 18 mars 2024, on ne peut pas faire plus récent, je crois, instaurant notamment le retrait automatique de l'autorité parentale aux parents condamnés pour violence incestueuse ou pour crime à l'encontre de l'autre conjoint. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit le traitement opérationnel des infractions sexuelles et intrafamiliales, l'enquête et l'orientation des procédures. Il m'a été demandé d'être concrète. J'espère que je ne serai pas trop prosaïque. Je vous propose maintenant, finalement, de vivre la vie du magistrat de permanence. Ce magistrat a pour responsabilité première la direction d'enquête, en dialogue téléphonique constant avec les enquêteurs. La plupart des procédures pénales débutent par une plainte ou un procès-verbal de constatation rédigé par un service de police ou de gendarmerie. Le procès-verbal de constatation est souvent établi à la suite d'un déplacement d'une unité alertée par le voisinage, cris, appel au secours, ou par des témoins parfois improbables. J'ai ainsi le souvenir d'un dossier de maltraitance à enfant qui débuta par l'alerte des habitants de l'immeuble d'en face qui avaient observé la fillette, victime âgée de 8 ans, dormant sur le balcon, quelles que soient les circonstances climatiques, et occupée à plein temps à des tâches ménagères. Très majoritairement, cependant, tout commence par la plainte de la victime ou de son ou ses civilement responsables lorsque celle-ci est mineure. Les signalements d'un juge des enfants, des services de l'aide sociale à l'enfance et de l'éducation nationale sont aussi au cœur des révélations concernant les mineurs. Ces pièces matérialisent donc la révélation des faits. Se pose alors la question du service enquêteur. La spécialisation de certains d'entre eux sera un élément de choix déterminant. Sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, plusieurs services peuvent être mobilisés. Les brigades locales de protection de la famille, dites BLPF, installées au sein de chaque commissariat parisien. Leur compétence est retenue en cas de violence conjugale, de viols conjugaux, mais également en cas de violence sur mineurs lorsque ces violences sont relatives et que l'âge de l'enfant n'implique pas leur audition dans une salle dite Mélanie, salle de la brigade de protection des mineurs. Peuvent être également saisis les services de la police judiciaire de la préfecture de police, la brigade de protection des mineurs, la brigade de répression du proxénétisme, les districts de police judiciaire. L'enquête débute et a un but, rassembler les preuves d'une infraction et en identifier l'auteur. Le rôle du magistrat du parquet est ainsi défini par l'article 41 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Un principe essentiel guide la construction de l'enquête pénale. Celle-ci doit être conduite à charge et à décharge. Le déclenchement des investigations ne se conçoit cependant que si les faits dénoncés, relatés, à les supposer établis, constituent une infraction pénale. Dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la réponse affirmative est d'évidence et cette étape de consolidation juridique sera vite franchie. Les violences conjugales, elles s'inscrivent dans la répression des violences volontaires. Ce sont des violences aggravées par le lien conjugal, de concubinage, unissant ou ayant uni le mis en cause et le ou la plaignante. Les violences peuvent être aussi psychologiques. Les faits de harcèlement sont également punissables et les peines sont aggravées lorsque le harcèlement conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Dans le domaine des abus sexuels, la possibilité de déclencher des investigations est tout aussi patente, tant les incriminations sont nombreuses. Le champ pénal des infractions sexuelles et sexistes n'a cessé d'augmenter. Il y a d'abord le viol, dit simple, défini par l'article 222-23 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol peut être aggravé car la sanction pourra être portée à 20 ans de réclusion criminelle si le viol est commis, par exemple, sur un mineur de 15 ans, s'il y a mutilation, vulnérabilité de la victime, abus d'autorité, pluralité d'agresseurs, menace d'une arme, enfin si le viol est en lien avec l'orientation sexuelle de la victime. 15 circonstances aggravantes sont énumérées au sein de l'article 222-24 du Code pénal. Autre aggravation, le viol suivi de la mort de la victime, la peine pourra être de 30 ans de réclusion criminelle, et si le viol est accompagné d'actes de torture ou de barbarie, la peine pourra être de celle de la réclusion criminelle à perpétuité. La définition du viol actuel est aujourd'hui au centre de vifs débats. La question est celle d'en compléter la rédaction en y intégrant le consentement. Les défenseurs de cette évolution soulignent, à juste titre, que la France ayant ratifié la Convention d'Istanbul, porteuse de cette notion, elle doit s'y conformer. Pour mémoire, c'est en juin 2023 que l'Union européenne a adhéré à cette convention, traité international de 2014 du Conseil de l'Europe. Elle donne un cadre général pour la prévention et la lutte contre la violence faite à l'égard des femmes. Au total, la Convention d'Istanbul a été ratifiée par 37 pays en Europe, dont la France. La Turquie est le seul pays à en être sorti en 2021. Les pourfendeurs de l'intégration de la notion de consentement à la définition du viol craignent une fragilisation du principe de la présomption d'innocence. Qu'en pensez ? Aujourd'hui, la démonstration de l'existence d'un viol impose la preuve de la violence, je vous l'ai dit, de la menace, de la contrainte physique ou morale, ou de la surprise. Autant dire la démonstration de l'absence de consentement. Cependant, la mise en lumière de la nécessité du consentement permettrait sans doute de réaffirmer cette exigence première. Au sein des infractions réprimant les abus sexuels viennent ensuite les agressions sexuelles, définies comme toute atteinte sexuelle autre que le viol. Plus simplement, dans le langage commun, on parle d'attouchement, commis là encore avec violence, contrainte, menace ou surprise. Comme pour le viol, on distingue les agressions sexuelles dites simples, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et les agressions sexuelles aggravées, les circonstances aggravantes pouvant entraîner une augmentation de la peine jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Les causes d'aggravation sont plurielles, je vous en épargnerai l'énumération exhaustive. Les plus fréquemment retenues sont la pluralité des auteurs, l'usage ou la menace d'une arme, la conjugalité. Les atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans par un majeur sont également incriminées. Simple ou aggravée, 7 ans dans le premier cas, 10 ans d'emprisonnement pour vous dans le second. Le harcèlement sexuel, c'est-à-dire le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, constitue également un délit. L'ensemble des infractions que je viens d'énumérer incrimine de fait la relation entre le mis en cause et une victime dont la liberté a été niée. À ce titre, et au titre de ce qu'on peut qualifier d'atteinte à la tranquillité publique, d'autres agissements peuvent être réprimés. L'exhibition sexuelle, imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. L'outrage sexiste, simple ou aggravé, il consiste dans le fait d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte soit atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Enfin, il existe toute une série d'infractions ayant pour objet de protéger spécifiquement les mineurs, soit de relations incestueuses, soit de prédateurs pédocriminels. La notion d'inceste a été introduite dans notre code pénal depuis 2016, même si les faits étaient déjà réprimés. Au gré des évolutions législatives, les infractions de viol et d'agression sexuelle incestueuse sont désormais plus simples à poursuivre. La matérialisation de la relation incestueuse avec un majeur suffit. Le viol incestueux est ainsi défini, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ou tout acte bucogénital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou sur l'auteur par le mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute personne ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Ce crime est réprimé de 20 ans de réclusion criminelle. Les agressions sexuelles incestueuses sont également spécifiquement réprimées. Quant aux infractions visant à protéger les mineurs de pédocriminels, elles relèvent de la lutte contre les abus sexuels en ligne, la corruption de mineurs aggravée, le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur, le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou se présentant comme tel en utilisant des moyens de communication électronique punis de 2 ans d'emprisonnement. Et si la rencontre a été suivie des faits, alors la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement. Il existe aussi le délit de sextorsion. Cela consiste pour des adultes à prendre contact avec des mineurs afin de les inciter à enregistrer des actes sexuels de plus en plus attentatoires à leur liberté, pouvant aller jusqu'à des faits d'autopénétration sexuelle. Les premiers contacts consistent en de simples incitations. Avant de devenir de véritables contraintes, le mineur étant en effet menacé de voir les premiers enregistrements effectué, diffusé sur Internet, s'il n'accepte pas d'aller plus loin. Dans ce contexte de protection, il convient de ne pas omettre d'une part les infractions classiques de détention, enregistrement en vue de la diffusion, transmission d'images d'un mineur à caractère pornographique, consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement de site pédopornographique, et d'autre part, le délit nouvellement créé de sollicitation par un majeur auprès des mineurs de son image à caractère pornographique. Enfin, ont été également créées des infractions spécifiques pour les mandats de viol et d'agression sexuelle, c'est-à-dire les instigations. Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages afin qu'elle commette un viol ou une agression sexuelle, y compris hors le territoire. C'est ce qu'on appelle le « live streaming », contre lequel le parquet de Paris mène une politique pénale offensive, et je dois à la vérité de vous dire que les dossiers sont de plus en plus nombreux. Revenons donc à notre magistrat de permanence. La première étape de l'analyse franchie, celle de l'infraction susceptible d'avoir été perpétrée, j'ai évoqué devant vous pas moins d'une douzaine d'infractions, toute l'attention doit alors être portée à l'audition de la victime. Cette prise de conscience est acquise désormais et les enquêteurs sont de plus en plus formés à la prise en compte des concepts évoqués au début de mon propos. Cette prise de conscience était plus ancrée lorsqu'il s'agit de procéder à l'audition de mineurs, audition filmée, parfois au sein même d'une salle adaptée, j'y reviendrai. Ainsi, au-delà de la description des faits eux-mêmes, la contextualisation des relations entre la plaignante et le mis en cause s'impose afin de détecter la relation d'emprise, le contrôle coercitif, la soumission ou la vulnérabilité chimique, l'amnésie traumatique. Ces notions sont d'importance, car maîtrisées, elles sont susceptibles d'éviter les questionnements inutilement suspicieux. Pourquoi la plainte n'a-t-elle pas été immédiatement déposée ? Pourquoi les souvenirs exprimés sont-ils évolutifs ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu ? Ne l'avez-vous pas cherché ? La prise en compte de ces notions permet aussi, pour des faits qui se déroulent le plus souvent dans la plus stricte des intimités, c'est-à-dire sans témoin, de ne pas négliger de recueillir les éléments que je qualifierais de périphériques, qui vont permettre d'apprécier le poids des accusations face au poids des dénégations. Les témoignages se pèsent et ne se comptent pas, disait Napoléon. Les investigations éclairent donc le contexte des faits. Ainsi, par exemple, au cours de l'enquête en matière de violence conjugale, la famille, les proches, les collègues de travail seront entendus afin d'évaluer l'éventuelle existence de stratégies d'isolement, de dénigrement, de surveillance mises en place par l'auteur des faits. Cette surveillance est redoutée par les victimes. Afin de la démontrer ou de l'écarter, j'ai validé la mise en place au sein du tribunal judiciaire de Paris et plus précisément au sein du bureau d'aide aux victimes, du système que nous avons appelé Deloge. Il s'agit d'un socle sur lequel le téléphone portable de la victime potentielle est placé. Celui-ci est analysé par un système informatique et toute méthode frauduleuse de surveillance est immédiatement détectée. Cette installation est en soi également une infraction pénale. Au cours de l'année 2023, 130 personnes se sont présentées au tribunal pour effectuer cette vérification. Lorsque les investigations en matière de viol se déroulent et que lors de ces investigations, l'état psychique de la victime au moment des faits doit être analysé, il sera aussi recherché. Soumission chimique, vulnérabilité chimique, non pour dénigrer la victime, mais au contraire pour évaluer la réalité d'un libre exercice du consentement ou à l'inverse, caractériser une relation sexuelle obtenue par surprise. Cela nécessitera parfois le recours à des examens toxicologiques. La notion d'emprise de contrôle coercitif est également essentielle, soit pour expliquer l'absence de plainte ou les plaintes multiples, autant de fois retirées. Il y a bien des années, ce seul retrait de plainte entraînait le classement de la procédure. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À côté de toutes ces auditions, le parcours probatoire passe nécessairement par des réquisitions diverses, examen médical pour évaluer l'incapacité physique ou psychologique, l'examen psychiatrique du mis en cause, rendu obligatoire par la loi dans la plupart des cas d'infractions sexuelles. Tous actes d'investigation utiles sont accomplis, perquisition, exploitation de la vidéoprotection, des téléphones portables. J'ai ainsi de souvenir d'une affaire criminelle de féminicide où la perquisition avait permis de découvrir que la victime était contrainte de dormir dans la cave de la demeure sur un pauvre matelas. Enfin, viendra l'audition du mis en cause et l'éventuelle confrontation avec la plaignante, sans omettre évidemment l'audition des témoins en faveur du mis en cause. Il peut vous paraître singulier d'évoquer déjà l'audition du mis en cause sans qu'aient été décrites les méthodes d'identification de celui-ci. Force est de constater que, contrairement aux idées reçues, le mis en cause est, dans la majorité des faits, connu de la victime. Dans le domaine des violences conjugales, c'est une évidence. Mais dans celui des violences sexuelles, c'est également le cas. Ces viols ont lieu dans un cadre intrafamilial, amical, à l'issue de rencontres sur les réseaux sociaux, plus ou moins éphémères. Ainsi, en 2023, 1166 viols ont été recensés sur la plaque parisienne, 97 ont été commis sur la voie publique, c'est ce qu'on appelle les viols de rue, et ce chiffre est stable. Au terme de cette enquête, donc à charge et à décharge, viennent le temps de l'orientation de la procédure et celui du jugement. Entre poursuite et classement, procédure alternative aux poursuites, les options sont multiples. Lorsque l'ensemble des investigations ont été accomplies, la question qui se pose le plus souvent n'est pas celle, nous l'avons vu, d'un classement pour défaut d'identification de l'auteur, mais celle des éléments à charge, des preuves suffisantes. La difficulté de ce chemin probatoire est accentuée dans le cadre des viols et des agressions sexuelles. À ce stade de mon propos, je voudrais attirer votre attention sur l'impact du temps de la prescription de plus en plus long. Aujourd'hui, en cas de viol sur mineur, le point de départ de la prescription est celui de la majorité de la victime. Le temps de la prescription est de 30 ans. Prenons un exemple. Soit une fillette de 13 ans, victime d'un viol par une personne ayant autorité, son père. À ses 18 ans, le temps de la prescription débute. La victime formalise sa plainte à l'âge de 37 ans, soit 24 ans après les faits. Inutile de détailler les difficultés des investigations. Les souvenirs seront perdus, les témoins difficiles à retrouver, les investigations médico-légales inutiles, les lieux des faits auront changé. Autre complexité de droit et de fait, l'irruption dans le code de procédure pénale du mécanisme de la prescription prolongée, plus communément appelée la prescription glissante. Cette notion est une formidable opportunité pour favoriser les poursuites contre les pédocriminels. Elle s'applique pour les viols et agressions sexuelles imposées à un mineur et s'inscrit dans le contexte suivant. Un premier viol, puis la commission sur un autre mineur par la même personne avant la prescription du premier viol, d'un nouveau viol ou d'une agression sexuelle. Dans une telle hypothèse, la prescription du premier crime ou du premier délit ne sera acquise qu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Ainsi, en revenant à l'exemple que je viens de donner, si l'agresseur incestueux, père incestueux, était devenu grand-père incestueux, c'est une prescription de 60 ans qui pourra théoriquement exister pour les premiers faits. Cet exemple est évidemment extrême. Cependant, les exemples de plaintes différées ne relèvent pas de l'anecdote. L'analyse des statistiques parisiennes relève que sur 1897 plaintes du chef de viol reçues à Paris, 1166 l'ont été pour des faits perpétrés cette même année. Une simple soustraction démontre que 731 plaintes étaient relatives à des faits perpétrés, à minima l'année précédente. 731. Nonobstant ces délais étendus, les cas de classement pour prescription perdurent, car le mouvement MeToo a surgi alors que les mécanismes de prescription étaient moins favorables. De très nombreuses affaires médiatiques traitées à Paris en ont été la démonstration. Perdure un constat. Le motif principal du classement est l'absence d'éléments à charge suffisants. Cette décision est évidemment très mal ressentie par l'un ou la plaignante qui en déduit à tort qu'elle n'a pas été crue. La question de l'absence de consentement reste la plus contestée, à tel point que le législateur s'est emparé de la difficulté en prohibant la relation sexuelle elle-même, rendant vain tout débat sur les conditions de celle-ci. L'absence de consentement est en quelque sorte irréfragablement présumée lorsque la relation sexuelle est intervenue entre un mineur de 15 ans et un majeur et que la différence d'âge est d'au moins 5 ans. Relation interdite entre deux autres hypothèses, la relation incestueuse, on l'a vu, et la relation tarifée. Tout majeur ayant une relation sexuelle tarifée avec un mineur de 15 ans commet le crime de viol. Autre motif de classement, le classement pour une opportunité des poursuites. Il est rare dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui. Si la saisine du juridiction apparaît inutile, alors on préférera ce que l'on appelle les procédures alternatives. Un stage en matière de violence conjugale, un stage de lutte contre l'alcoolisme, une contribution citoyenne. Cependant, dans la très grande majorité des procédures, l'identification d'un auteur des faits eux-mêmes caractérisés se traduit par des poursuites. Dès que les faits sont de nature criminelle, une orientation s'impose, la saisine d'un juge d'instruction. Le dossier aura alors une durée moyenne de 18 mois avant qu'une nouvelle étape ne s'ouvre, le renvoi devant une cour d'assises ou une cour criminelle départementale. La cour criminelle départementale, instaurée en 2019, est compétente pour juger les crimes punis de 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Elle est composée de 5 magistrats professionnels. Cette création répondait à un double objectif, éviter les correctionnalisations, c'est-à-dire la disqualification d'un crime en délit. Un viol devenait une agression sexuelle. Et réduire le temps d'audiencement des procédures. Le premier objectif est atteint. En 2023, le nombre des ordonnances de mise en accusation a doublé. Le second s'éloigne, vu l'importance des stocks ainsi générés. Le temps de fixation du dossier à l'audience est très variable. Si le mis en cause est détenu, les délais sont imposés, s'il est libre. Il y a tout lieu de redouter que la procédure attende sur étagère de longs mois. Mais le temps n'est pas seulement causé par les délais d'audiencement. Dans le domaine des violences conjugales, nonobstant la priorité de traitement imposé, priorité de politique pénale, des centaines de procédures sont en attente dans les services enquêteurs. La brigade de protection des mineurs est elle-même confrontée à des stocks inquiétants. Et même si en matière délictuelle, la décision de poursuite fait souvent le choix de procédures dites rapides, la comparution immédiate, la convocation par procès-verbal, par un magistrat du parquet à l'issue du déferrement, le temps du jugement peut s'étirer. À Paris, la date de convocation est voisine de 6 mois, alors que pourtant, une centaine d'audiences se tiennent chaque semaine à Paris. Le temps du jugement peut s'étirer pour cause de demandes de renvoi de la part des avocats. Le temps se délite et est comme suspendu pour les parties. Il est essentiel de ne pas en négliger les conséquences. C'est pourquoi, ainsi qu'annoncé dans cette seconde partie de mon propos, je vous propose d'aborder l'accompagnement de la victime et le suivi du mis en cause dans le temps parfois long de la procédure. Le traitement des violences conjugales et sexuelles et sexistes doit intégrer ce temps parfois long. Cette prise de conscience a parfois été douloureuse pour notre institution judiciaire, née de tragédies renouvelées de féminicides perpétrés, alors même que l'auteur était sous contrôle judiciaire, déjà condamné ou même venait de sortir de prison. L'accompagnement de la victime se concrétise de multiples façons. Lorsque la victime est majeure, au tout début de la procédure, c'est d'abord la réalisation d'une enquête, EVI, évaluation de la victime, par une association spécialisée. Cette évaluation a pour objet de déterminer, grâce à un questionnaire dédié, les besoins spécifiques de la victime, hébergement, retour à l'emploi, soutien psychologique, accompagnement lors de la procédure, et répondre à ces besoins grâce au soutien des associations d'aide aux victimes. Parmi les questions posées, celle de la nécessité du recours aux dispositifs sur lesquels je reviendrai dans un instant, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement ou l'ordonnance de protection, en cas de violence par conjoint ou par ex-conjoint. Au cours de la procédure et jusqu'à l'exécution de la peine, si peine il y a, ces mesures ont pour objet de préserver la victime de toute réitération des violences. C'est pourquoi, lorsqu'il est mis fin à la détention provisoire de l'auteur des faits ou au terme d'une peine d'emprisonnement prononcée, la victime est désormais immédiatement informée de cette libération par l'autorité judiciaire. Les dispositifs de protection instaurés sont le téléphone grave danger. Créé au parquet de Bobigny, il est désormais reconnu par la loi. En cas de grave danger menaçant une personne victime de violence ou de viol, de son conjoint ou concubin, ou ex-conjoint ou concubin, le procureur de la République peut lui attribuer un dispositif de téléprotection qui lui permet d'alerter les autorités publiques, ce pour une durée renouvelable de 6 mois. Les conditions d'attribution, outre le grave danger, sont les suivantes. La victime doit y consentir expressément et elle ne cohabite plus avec l'auteur des faits. Pour que s'y concerne l'auteur des faits, soit il doit faire l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime, soit, en cas de danger avéré et imminent, être en fuite et n'avoir pu être interpellé lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime n'a pas encore été prononcée. Ce téléphone permet une intervention en urgence, mais également un accompagnement renforcé de la victime. À Paris, c'est l'une des 17 sections du parquet qui réalise le suivi et la gestion de cette flotte de téléphones grave danger. La gestion des TGD mobilise 6 magistrats référents qui assurent une permanence tournante, 3 membres du greffe, 2 assistantes de justice. Une boîte structurelle est dédiée est traitée par le magistrat de permanence et par l'une des 2 assistantes de justice du lundi au vendredi. Nous disposons d'une flotte de 80 TGD, dont 75 étaient effectivement attribués au 31 décembre 2023. Le bar ou le bracelet anti-rapprochement est un dispositif complémentaire au téléphone grave danger. Il permet d'assister la victime et de surveiller l'auteur des violences. Il se base sur une géolocalisation permanente de la victime via son téléphone qui lui est remis et de l'auteur présumé ou réel des violences via son bracelet électronique. Dès que ce dernier se rapproche de la victime, une alarme est déclenchée qui peut entraîner l'intervention des forces de l'ordre. Il peut être ordonné au civil par le juge aux affaires familiales avec le consentement de la victime et de l'auteur des faits. Et si l'auteur refuse, le juge en informe immédiatement le parquet qui pourra alors diligenter les enquêtes nécessaires. Au pénal, le juge peut décider du dispositif dans le cadre d'un contrôle judiciaire avant toute condamnation ou après condamnation à titre d'une obligation associée à une peine. Le dispositif du BAR, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, peine à se déployer sur Paris, essentiellement pour des questions techniques ou géographiques. Techniques, lorsque le bracelet électronique du mis en cause est indétectable, comme cela est souvent le cas dans certaines stations de métro parisiennes, et alors l'alerte retentit. Géographique, les distances exigées d'éloignement sont difficiles à respecter sur la plaque parisienne, vu la densité urbaine. Enfin, l'ordonnance de protection, il s'agit d'une procédure d'urgence civile permettant d'assurer la protection des victimes de violences conjugales, physiques ou psychologiques, ou dont les enfants subissent des violences. Que l'auteur des violences soit son conjoint, y compris lorsqu'il n'y a pas eu de cohabitation, son ancien conjoint, son concubin, paxé ou non, son ancien partenaire lié par le pax, son ancien concubin. Le non-respect des obligations et des interdictions fixées par une ordonnance de protection est également constitutif d'un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cet accompagnement de la victime se doit être attentif à tous les stades de la procédure et l'impact de la décision de classement est trop souvent négligé. C'est pourquoi, au-delà des avis de classement, y compris formalisés par des courriers personnalisés, un dispositif spécifique est mis en œuvre au parquet de Paris. Il s'agit d'un groupe de travail intitulé « De l'impossible poursuite à la réparation ». Les travaux de ce groupe consistent à entendre des victimes dont la plainte a été classée pour des motifs juridiques, cause du décès du mis en cause ou prescription, afin de déterminer ce qui a manqué dans le traitement de leur dossier. Nous espérons ainsi éviter ce qu'on appelle la victimisation secondaire qui peut résulter d'un suivi inattentif de la procédure. Cette notion est intégrée, elle aussi, au sein de la Convention d'Istanbul, mais elle est aussi présente dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle la définit comme une victimisation d'une part distincte de celle qui résulterait de la commission des faits eux-mêmes et d'autre part imputable aux autorités judiciaires. Une décision du 4 avril 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation semble en être une première illustration. Je cite l'un des paragraphes de cet arrêt. S'agissant particulièrement de la personne se déclarant victime d'infractions sexuelles et invoquant la peur d'assister au procès, le juge doit notamment vérifier si toutes les autres possibilités telles que l'anonymat ou des mesures spéciales étaient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre. Le diable se niche parfois dans les détails, par exemple dans une salle d'audience, l'huissier invitant la victime à s'asseoir sur le même banc que son agresseur. Là encore, la loi a amorcé une prise de conscience, puisqu'en matière criminelle, les auditions de la victime et du mis en cause sont filmées, invitant ainsi le renouvellement des interrogatoires et des confrontations. Évolution aussi que cette possibilité pour la victime d'être, comme le mis en cause, assistée d'un avocat au cours de ses auditions devant les enquêteurs. Lorsque la victime est mineure, elle doit bien sûr bénéficier des mêmes attentions. En outre, des méthodes d'audition spécifiques peuvent être mises en œuvre lorsque la gravité des faits et quand le jeune âge de celle-ci le justifie, c'est la salle Mélanie, ou audition au sein d'une unité d'accueil pédiatrique. La salle Mélanie, c'est une salle d'audition spécifique, qui s'appelle ainsi en référence à la première petite victime qui a été auditionnée selon ses procédés. Il s'agit de créer un environnement, un espace enfantin, qui permette la mise en confiance, de recueillir la parole de l'enfant dans un endroit préservé. Matériel de sonorisation et de fixation de l'image et du son complète le dispositif. Ils sont installés derrière des vitres sans teint ou dissimulés dans les plafonds. Ils ont pour objet d'éviter le traumatisme d'audition répétitive et puis parfois de tirer des enseignements sur les attitudes de l'enfant. L'UEAPED, c'est l'unité d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger. Elle a pour objectif d'offrir dans un même lieu soins, protection, procédure judiciaire aux mineurs de victimes de violences. À Paris, il n'existe, à mon grand regret, aucune UEAPED. Mais j'espère que les discussions en cours dans les projets de création pourront aboutir, mais comme toujours, tout est question de financement. Il faut encore préciser un dernier point. Depuis le décret du 23 novembre 2021, dans les dossiers de violences conjugales, les enfants témoins de celles-ci sont désormais considérés comme co-victimes des faits et peuvent bénéficier des droits attachés à ce statut. La recherche a en effet mis en lumière que les enfants exposés à des violences conjugales souffraient d'un psychotraumatisme parfois aussi fort que la victime directe. La nécessité d'accompagner la victime mineure entraîne parfois la saisine parallèle du juge des enfants. Quant au suivi du mis en cause, en l'absence du procès, s'il n'est pas détenu, il est susceptible d'être placé sous contrôle judiciaire. Ces mesures peuvent comporter de très nombreuses obligations, obligations de soins, obligations de pointage, et de tout aussi nombreuses interdictions, interdiction du domicile conjugal, interdiction de contact. Dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, un dispositif expérimental est également mis en place à Paris. C'est le contrôle judiciaire avec placement probatoire. Dans ce cadre, le mis en cause a l'obligation de résider dans une structure, d'être prise en charge sur le plan sanitaire, social, éducatif ou psychologique par une structure associative. Les associations de contrôle judiciaire et les services d'insertion et de probation jouent un rôle majeur dans le contrôle réactif des interdictions et obligations dont le non-respect peut entraîner l'incarcération de la personne. Au terme de mon propos, j'espère vous avoir éclairé sur les nombreux enjeux qui complexifient le traitement de notre sujet, mais aussi j'espère vous avoir convaincu de notre détermination dans la lutte contre les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et sexistes. Cependant, le parquet ne peut agir seul, et c'est en cela que le rôle du procureur dans les instructions qu'il adresse aux services enquêteurs et les politiques partenariales qu'il construit est essentiel. La lutte contre les violences conjugales ou sexistes, c'est tout d'abord favoriser la révélation des faits. Ce que l'on nomme le chiffre noir de la criminalité est particulièrement important en la matière. Seulement 12% des femmes victimes de viol ou de tentatives de viol porteraient plainte. Alors, au fin d'éviter la déperdition des informations, j'ai formalisé des instructions afin de prohiber la rédaction de main courante. J'ai formalisé des instructions afin de systématiser les enquêtes de personnalité approfondies, développer une politique partenariale en toutes directions. Sur la seule année 2023, la signature de 3 conventions l'a concrétisée. 22 mars 2023, protocole relatif au signalement par un médecin des personnes victimes de violences conjugales, instituant un circuit court de signalement. 4 octobre 2023, convention relative au dépôt de plainte à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales, favorisant le recueil des plaintes des victimes au sein du service des urgences des sites hospitaliers parisiens par le déplacement des fonctionnaires de police. 28 décembre 2023, protocole relatif à la prise en charge des mineurs suite à un homicide conjugal et d'autres situations traumatiques, un groupe instituant notamment la prise en charge psychologique immédiate de l'enfant en cas de mort violente de l'un de ses parents par l'autre. Nous procédons ainsi pas à pas, en cela aidé par une mobilisation collective et par la recherche. En quelques années, l'évolution du traitement judiciaire a été spectaculaire. Les réseaux sociaux et leur algorithme propices à la diffusion de sujets violents, les images déformées par l'industrie pornographique de la relation sexuelle, la banalisation chez certaines adolescentes de leur propre prostitution sont autant de signaux qui nous impose une vigilance constante. Alors, sans doute, 100 fois sur le métier, il nous faudra mettre l'ouvrage. Mais il faut croire à la force de notre engagement collectif et en cela, s'en remettre à la sagesse du petit prince. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. Il y aura toujours une autre occasion, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, mille fois merci, Madame la procureure. Vous nous avez donné des chiffres qui donnent le vertige, qui impressionnent. J'évoque de temps à autre, car il est difficile pour moi de faire autrement, la période où j'occupais le poste que vous occupez actuellement, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, ces contentieux existaient, bien sûr, mais en aucun cas dans les proportions que vous venez de citer. C'est totalement fou d'entendre les chiffres que vous avez cités, d'entendre le nombre de textes législatifs qui sont intervenus, qui montrent à quel point on a envie de bien faire. Mais un texte législatif ne règle pas tout. Encore faut-il pouvoir mettre ensuite en œuvre les mesures qui permettent de l'appliquer. C'est impressionnant de voir les dispositifs que vous avez créés, ces conventions, en fait, de voir la créativité dont fait actuellement preuve le parquet de Paris sous votre impulsion et dont font preuve les autres parquets de France, car ce n'est pas un problème spécifiquement parisien. Je n'étais pas là la semaine dernière, mais sauf erreur de ma part, les deux intervenants ont dû vous dire que les rôles des cours d'assises et des cours criminelles départementales étaient occupés, je crois, à près de 80% par des affaires de viol ou d'infractions sexuelles de nature criminelle. Donc, tout cela méritait d'être dit, méritait d'être entendu par cette Académie des sciences morales et politiques.